pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
La radio à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se bat pas pour la gagner.
C'est plus nombreux, plus fort qu'on récupérera tout ce qu'on a perdu. Non, c'est pas la retraite à 62 ans, c'est la retraite à 60 ans. Retour à une éducation, une école de qualité pour tous. Retour à un système de santé égalitaire, gratuit pour tous, même les transports. Tout ça est à reconquérir. Nos impôts, c'est à nous de décider ce que nous devons en faire. Macron, il a eu 27% au premier tour. C'est même pas 10-12% de la population qui a voté pour lui. Et le mec, il se croit tout permis parce qu'il a été élu, soi-disant, démocratiquement, quoi.
Une vraie révolution. Faut tout foutre en l'air. Faut tout foutre en l'air. Les gens qui sont au gouvernement, c'est de la mafia. De la mafia en col blanc. Ils nous volent. Il faut renverser la 5e République. Il faut une 6e République.
Entre la contestation contre la déforme des retraites et les manifs anti-mégabassines, la Macronie se prépare-t-elle un printemps plutôt occupé ? Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off pour cette nouvelle édition de Radio Manif. Petit journal sonore de cette semaine du 13 au 18 mars au relan de 68 ou de 95. Vous allez aujourd'hui, pendant une heure, à nouveau entendre la parole de celles et ceux qui ne l'ont jamais dans les médias dominants. Grévistes, manifestants, syndicalistes françaises et français lambda, rencontrés dans les rues et les manifs qui ont animé une ville de province parmi tant d'autres. Si tu nous mets 64, on te met 68.
Bonjour Ludo.
Bonjour.
7h du matin passé, on est lundi matin 13 mars.
Ça fait déjà une semaine de lutte, ouais, et de grève reconductible.
On est où ici exactement ?
À une des entrées du Technicentre industriel, un grand centre cheminot où il y a la maintenance des trains, en particulier de la banlieue et plein d'autres métiers. Il y a 1000 emplois ici à peu près. Ouais.
Banlieue, donc parisienne.
Enfin, c'est trains de banlieue parisienne qui viennent être réparés ici, entre autres. C'est toujours important d'aller vers les collègues et leur redire à nouveau. De toute façon, la lutte qu'on mène en ce moment contre le projet de réforme et pour l'amélioration de la vie, bah voilà, faut en discuter tous les jours au quotidien avec les gens. On combat des médias qui dominent la communication et ça, c'est pas simple. Et c'est du porte-à-porte avec les gens. Faut répéter sans cesse le message comme quoi bah, c'est plus nombreux, plus fort. Quoi.
D'habitude, je tends beaucoup mon micro aux gens de Sud. Aujourd'hui, c'est CGT, Fédération des Cheminots, c'est ce qui est marqué sur ton gilet et sur ton bonnet.
Il faut prendre les choses en main. Le syndicat nous donne des moyens pour lutter, après à nous de bien nous en servir. Quoi.
Et aujourd'hui, donc, cette action de piquet de grève ?
Oui, c'est un piquet de grève, c'est un petit filtrage à l'entrée, parce qu'on n'a pas le droit de bloquer, c'est interdit.
D'accord.
Bah, ça permet de ralentir un peu la circulation, être visible. C'est toujours communiqué auprès des collègues, auprès de nos concitoyens, concitoyennes, que bah, c'est plus nombreux, plus fort, qu'on récupérera tout ce qu'on a perdu. Quoi. Non, c'est pas la retraite à 62 ans, c'est la retraite à 60 ans. Retour à une éducation, une école de qualité pour tous. Retour à un système de santé égalitaire et gratuit pour tous. Enfin voilà, on a tellement à perdre, et puis même les transports, tout ça est amélioré, quoi, et à reconquérir.
Ce matin, c'est une action intersyndicale. Il y a aussi des cheminots de Sud, il y a de la CGT, il y a d'autres syndicats qui sont présents.
Ouais, ouais, il y a aussi l'UNSA, la CFDT. Nous, on se réunit.
Même la CFDT.
Il y a même la CFDT, même si on voit pas de drapeau ce matin, ils s'inscrivent sur les tracts qu'on diffuse en intersyndical. C'est très symbolique, hein, cet intersyndical. Elle rassure les gens, quoi. C'est un message d'unité. On porte tous la même parole, le même combat. Non, c'est 2 ans de plus. Nos impôts, c'est à nous de décider ce que nous devons en faire.
Ouais.
Ce n'est pas les 500-600 politiques, ce n'est pas l'État qui a un faux mandat. Macron, il a eu 27% au premier tour, 27% des 55% de votants. Quoi. Un quart de 55, c'est même pas 10-12% de la population qui a voté pour lui. Après, c'est un rejet de Marine Le Pen. Et le mec, il se croit tout permis parce qu'il a été élu, soi-disant, démocratiquement. Quoi.
Oui, il y a les 2 ans en plus. Pourquoi pas plus, hein. Pourquoi pas vous faire trimer jusqu'à la mort ou vous lourder avant quand vous serez tout cassé, en fait, et mettre des jeunes moins chers à la place. Mais tu le disais, c'est quelque chose de global. Tu as mentionné, bien sûr, la qualité des services publics, des transports, mais tu as aussi parlé de l'école. Là, évidemment, c'est ce qui fédère, mais j'ai l'impression que c'est pas seulement qu'une histoire de « allez, on vous en remet 2 ans
».
C'est plus large que ça. Ouais,
totalement d'accord avec toi, c'est beaucoup plus large que ça. Les gens ont ras-le-bol.
Là, vous entendez parler des bassines aussi tout à l'heure, là.
Bah, l'eau, c'est un bien commun. Moi, ça me fait chier que Vittel, il assèche la ville de Vittel, que Évian, il assèche la ville d'Évian, que les gens doivent payer leur eau là-bas, alors qu'il y en a qui font des milliards de bénéfices sur un bien commun qui est l'eau, quoi. Et voilà, les mégabassines, ça rentre dans cette histoire-là de privatiser l'eau qui est commune à tous, quoi.
Toi et les collègues, là, tu disais, ça fait déjà une semaine de lutte derrière. Alors, chapeau, parce que je vous croyais laminé après 2019 et le coup des grèves perlées. Vous vous êtes bien fait avoir quand même avec cette histoire de grèves perlées. Les gens ont fait blablacar. Je suis presque surpris de vous retrouver à nouveau dans la rue parce que je vous pensais mort. Quoi. En 2019, je vous ai laissé exsangue les cheminots.
Effectivement.
Vous avez bien du mérite.
Elle était marquante, cette grève 2019-2020. On n'a jamais fait autant de jours de grève. Pourquoi on est arrivé à une grève parlée? Parce qu'il y avait de l'épuisement sûrement aussi. Ouais. Et qu'on voyait bien qu'on n'arrivait pas à rassembler. Après, je pense que les gars qui sont là, ils sont convaincus qu'il faut se battre pour réobtenir tout ce qu'on perd. Quoi. On l'a senti au début du mouvement que les cheminots étaient pas découragés, mais ils veulent pas être la locomotive.
Bah non, fatigués.
Fatigués. Et puis pas tenir le mouvement qu'avec des cheminots. Quoi. On cherche à se rassembler, on a créé un collectif. Le 8 février, on s'est retrouvé en AG. Le constat était le même dans tous les syndicats. Les cheminots ne veulent pas être porteurs de ce mouvement à eux seuls. Ouais. Le but de cette discussion après le 8 février, c'était de rassembler des travailleurs et travailleuses en lutte et essayer de construire des actions communes. Et pas qu'entre cheminots, pas rester regroupés entre nous. De toute façon, ce n'est pas que les cheminots qui vont renverser cette société capitaliste qui nous tue tous quoi, et qui nous exploite tous. Quoi.
Ce que je ressens de l'autre côté, c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule ou la poule et de l'œuf. C'est qu'il y a des gens qui veulent bien partir même pour une grève générale, pour tout bloquer, etc. Mais en fait, traditionnellement, vous êtes le fer de lance, les cheminots. Vous êtes en fait le dernier grand corps ouvrier. Salut mon Willy. C'est beau l'intersyndical de voir un Sud qui fait un bisou à un CGT. Ça fait toujours chaud au cœur.
Bonjour. Je suis un bon Sud, c'est un bon CGT.
En fait, oui, je te disais, c'est un peu l'œuf et la poule, parce qu'il y a des tas de gens en fait, qui comptent sur vous. Vous êtes le fer de lance traditionnel de la lutte, et c'est un peu, on y va, si les cheminots y vont. Non, mais en fait, c'est un peu normal que les gens comptent sur vous, parce que vous êtes l'un des derniers bastions ouvriers du pays.
C'est un peu la crainte des collègues, c'est la grève par procuration. On ne veut pas de ça, nous, on veut... La population cheminote a évolué aussi. Hein. Ouais. Les gens ne sont plus embauchés au statut, donc ils ont la crainte, comme tout le monde, de perdre leur emploi. En dehors de la population, chez les cheminots, il y a de moins en moins de militants et de révolutionnaires qui veulent changer le système et puis améliorer surtout le système.
La lutte des classes, c'est plus ce que c'était chez tout le monde. Hein.
Quand j'étais gamin, mes parents, mes grands-parents, ma famille, il y avait des sujets houleux lors des réunions de famille. Au début, ça a pu me rebuter tout ça. Et puis je me rends compte qu'avec le temps, c'est important de discuter de tout ça à chaque instant, à chaque moment, avec ses proches, avec sa famille. Il y a des moments difficiles, il y a des conflits, mais... faut qu'on fasse tous de la politique. C'est ça, faire de la politique, c'est de parler de notre avenir à tous, de quelle société on veut. Quoi. Donc j'invite tout le monde à discuter sans arrêt de la société qu'on souhaite mettre en place et quel avenir on veut laisser à nos enfants.
Alors tu disais stratégiquement, il y a un truc qui est aussi compliqué, c'est que en morcelant et en marchandisant l'entreprise SNCF en plein de petites boîtes privées, on a aussi explosé ce corps qui était les cheminots. Tu disais en plus le fameux statut cheminot existe de moins en moins. Enfin, les gens ne sont plus embauchés. Donc voilà, ils sont embauchés soit en précaire, soit en CDD, soit...
CDI de droit privé. Hein. Ouais. Enfin voilà, depuis 2018, il a été décidé effectivement que toutes les embauches à partir de je ne sais plus quelle date, ça doit être 1er janvier 2020, toutes les embauches à la SNCF ne se feraient plus au statut. Ouais. Donc toutes les personnes qui sont embauchées à la SNCF sont de droit privé comme tout le monde. Quoi. Avec du coup de moins en moins de personnes au statut. Le statut avec un système de retraite particulier, c'est le dernier avantage qu'on avait. Quoi. Les gens parlent de train, l'avantage du train, on n'en a plus de trop non plus.
Alors, la pédagogie, c'est l'art de la répétition, on vous le glisse au passage. Et arrêtez de nous embêter avec la prime de charbon, elle a été abolie en 72.
Voilà, c'est du bashing SNCF, c'est tellement facile. Les gens aiment taper les uns sur les autres. Ça, c'est le travail des médias. Ils nous opposent alors qu'on est tous ensemble. On est tous dans la même galère. Ce ne sont pas des régimes particuliers, ce sont des régimes pionniers. Ce sont des régimes qu'on doit étendre à tous les ouvriers et ouvrières, à tous les travailleurs et travailleuses. Quoi. Le progrès social n'existe plus alors qu'on produit de plus en plus de richesses. Nos richesses appartiennent dans les mains des gros capitalistes, des gros patrons. Récupérons cet argent, redistribuons-la équitablement et pour construire une société plus juste.
Et en ce qui concerne la boîte, ce qui était avant une seule et unique boîte, qui d'ailleurs appartenait aux contribuables, ça a été nationalisé en 36. En tout cas, c'était une boîte qui appartenait aux citoyens, aux contribuables. Et on l'a tronçonnée et marchandisée par petits bouts. Et ce qui était avant une seule et unique boîte, la SNCF, aujourd'hui, c'est des dizaines de boîtes. Enfin, même les gens qui accompagnent les voyageurs au train, c'est une boîte. Les distributeurs de bonbons sur les quais, c'est une boîte. Telle prestation technique, c'est une autre boîte. Compliqué de fédérer les gens quand tu as une multitude de boîtes avec, effectivement, du statut privé, du CDI de, j'allais dire de droit commun.
Bah, une fois de plus, c'est le travail du capitalisme, hein, ouais. Diviser pour mieux régner. Hein. Ils le font dans toutes les entreprises, ils ont divisé EDF, GDF, même à travers tout ça, il y a plein de petites boîtes, et nous à la SNCF, on l'a aussi également. Maintenant, c'est divisé par exemple pour mieux régner, en ayant des statuts différents et des contrats différents. Ils arrivent à opposer les Français en disant que bah, le cheminot, l'électricien gazier, tous ceux qui peuvent partir à traite plus tôt, bah, non, ils devraient être dans la même merde que les autres. Non, c'est pas ça. C'est pas ça notre avenir à tous, c'est que bah, on doit tous gagner des droits et avoir une meilleure vie pour toutes et tous.
Alors il y a un autre truc aussi qui joue là, c'est qu'on est en train de faire les mêmes conneries que les Anglais ont faites quand ils ont découvert Thatcher. Mmh. Thatcher c'était au milieu des années 70, bah, aujourd'hui on a un Thatcher qui s'appelle Macron.
Bah, un Macron borné, ouais.
On ouvre le rail donc à d'autres boîtes, donc moi j'y suis complètement perdu, hein, dans les Ouigo, dans les trucs, dans les machins, il paraît que les Allemands aussi vont faire rouler.
C'est l'ouverture à la concurrence tout voilà. Ça, hein, ça y est, la SNCF n'a plus le monopole, service public réellement n'existe plus.
Donc, moi, je suppose que chez Ouigo et compagnie, c'est compliqué de se syndiquer, non?
On peut se syndiquer partout, hein, c'est ouais. Pas compliqué de se syndiquer et puis d'avoir une conscience.
Parce que j'ai même pas compris ce que c'est Ouigo, est-ce que c'est la SNCF ou pas?
Ouigo c'est une filiale SNCF et une filiale de transport à bas coût. Je pense qu'à terme, il y a des cheminots qui travaillent à statut encore là-dedans, mais à terme ça va être des personnes qui auront encore des salaires plus bas que dans d'autres boîtes et c'est le Ryanair de la SNCF quoi.
Ouais d'accord, c'est magnifique.
Ouais.
Alors bon, évidemment t'as pas de boule de cristal Ludo, mais la suite de la stratégie là, pour vous ça va se jouer comment?
La stratégie sur ceux qui sont présents aujourd'hui, elle est claire et simple, hein, c'est la grève reconductible. C'est le seul moyen qu'on a trouvé aujourd'hui pour renverser des décisions d'État, et un État qui ne nous écoute pas. Du coup, bah voilà, c'est la grève reconductible avec des rapprochements avec les autres professions. Nous, on doit faire notre boulot dans notre chantier, mais aussi on doit faire le boulot en interpro, se remobiliser, être plus nombreux, plus forts. Donc ouais, sur les 3-4 jours à venir, on a un calendrier d'initiatives qui est prolongé systématiquement.
Okay.
Et tout ça est décidé en Assemblée Générale, bien sûr. Donc j'invite également... Bah, tous les cheminots, c'est ce que je fais ce matin quand je vais les rencontrer, venez en nager quoi. C'est pas au syndicat ou au syndiqué de décider quoi, c'est vous travailleurs, travailleuses qui doivent décider de l'avenir de nos enfants, de cette France quoi, et même du monde quoi. Parce que, voilà, j'ai pas envie non plus d'exploiter nos voisins africains, asiatiques, voilà, tout ça c'est global.
Mon Dieu, quelle horreur, un trotskiste à la CGT. J'ai entendu beaucoup de gens qui disent « Ouais, nous, on veut bien y aller. Si les raffineries et les cheminots y vont, on y va. » On envoie les cheminots faire grève à notre place et on s'achète une conscience en mettant 2 francs 6 sous dans une... Ce qui est déjà très bien. Hein.
Bah, tout le monde trouve des bonnes excuses. Hein. Ouais. Enfin, voilà. Quand il n'y a pas l'intersyndical, on nous dit « Ah non, il n'y a pas tous les syndicats, j'y vais pas. » Et puis bah, quand il y a l'intersyndical, « Ah bah non, je peux pas, j'ai pas assez d'argent. »« Ah bah non, j'y vais pas parce que bah, vous n'êtes pas assez nombreux. »« Bah ouais, mais venez nombreux, et plus nombreux on sera, plus on sera fort. » Et puis il faut se regarder dans la glace et agir, quoi. On peut pas demander tout le temps aux autres d'agir pour soi. Prenons-nous en main, quoi.
Bah non, il n'y a pas que les riches qui font grève. Hein. D'ailleurs, c'est les grévistes, quand ils font grève, c'est, des fois, c'est parce qu'ils sont pas riches, justement.
Non.
Parce que ça, on le rappelle aussi, c'est du gréviste bashing, surtout sur les fonctionnaires. Il y a une légende qui continue à courir que les fonctionnaires ou assimilés, etc., sont payés quand ils font grève. Donc, tu rigoles, voilà, c'est un beau démenti.
Non. Je suis embauché en 98 à la SNCF, pas un jour de grève n'a été payé. Hein. Oui. Et les jours de grève, on me les a fait payer tout de suite à la fin du mois. Donc j'avais des fiches de paye à 200, 100 euros. Voilà, je suis arrivé à 100 euros quand tu fais un mois complet de grève. Donc bah voilà, pas le choix, quoi. Mais j'ai construit...
Et alors le prix des nouilles a augmenté.
Ouais, bah, je bouffe des patates maintenant, voilà. C'est que je peux pas les cuire parce que voilà, je peux pas chauffer mon eau. Je pense que les personnes qui sont présentes aujourd'hui, ils ont fait en sorte de pas se surendetter. Ils vivent pas sur leurs moyens. Il faut faire attention à la manière dont on vit et pas vivre au-dessus de ses moyens, se garder une possibilité d'être libre d'agir, quoi.
Ouais.
Voilà, faire attention vraiment à notre consommation, où on consomme, avec qui on consomme et combien on consomme, quoi. Et c'est comme ça qu'il nous a servi, quoi.
Mais je comprends à un moment pourquoi Sarkozy, quand il était président, voulait que tout le monde devienne propriétaire et paye des traites de pavillons tous les mois. Ça enchaîne bien, ça. Hein.
Qu'on ait tous un petit pavillon, qu'on s'endette à 33%, voire un peu plus. Et les gens, bah, pour avoir un plus beau logement, t'as plus le droit d'être malade, t'as plus le droit de faire grève, voilà, t'es pris à la gorge. Et puis, pour avoir une belle maison, bah, ils s'éloignent de leur lieu de travail. Et bah, maintenant, t'as le problème de l'essence, de la voiture qui se rajoute. Tu rajoutes l'augmentation des produits de première nécessité, bah voilà, tu fais que bah, les gens n'ont même plus la possibilité de manger à leur faim, encore moins de faire grève. Mais est-ce que c'est pas le moment, justement, pour se relever, quoi? On a un genou à terre, relevons-nous, quoi, luttons, c'est le moment.
Comme disait l'autre, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux.
C'est vrai.
à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder,
la retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite.
Mercredi 15 mars. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Je suis allé vers toi parce qu'il y a ce détournement d'image qui a fait son apparition vers 2018-2019. Je l'ai vu sur Internet et là, tu l'as fait imprimer sur une banderole assez conséquente. Ça fait presque un mètre de long sur...
90, je crois.
Ouais. Je pense que c'est la toile de Delacroix, la liberté guidant le peuple.
Voilà. Bonne culture.
Ah non, mais c'était sur les billets de 100 balles du monde d'avant, du millénaire dernier.
J'avais oublié le nom du mec et...
Oui, mais t'as déjà eu des billets de 100 balles quand même.
Oui, un petit peu.
Je parle en français. Enfin,
si tu veux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a un mec qui a installé avec Photoshop sûrement des gilets jaunes sur ces personnages et je trouvais que ça représentait bien ce que moi je me fais de l'idée de ce qu'il faudrait que ça soit aujourd'hui. Il faut renverser la 5e République, il faut une 6e République. Il faut arrêter de laisser partir les milliards, les fuites fiscales, plus de 100 milliards de fuites fiscales. Un président, il est mis en place par le peuple pour faire des bonnes choses. En aucun cas, un président ou un ministre devrait vendre ce qui appartient à la France. Ce qui appartient à la France, c'est au peuple français. On ne devrait pas pouvoir laisser partir 100 milliards de fuites fiscales. Les Américains ne se gênent pas à bloquer les comptes quand l'argent ne rentre pas dans leur pays. Hein. Ce n'était pas la peine de faire des énarques, de faire autant d'études. Hein. Ils sortent tous des grandes écoles. C'est pour nous entuber. Ils nous enlèvent tout. Nos parents se sont battus pour avoir la 5e semaine. On s'est battu pour des augmentations de salaire. On s'est battu pour qu'il y ait un SMIG. On a forcé l'Allemagne à installer un SMIG. On a poussé les États-Unis à faire une sécurité sociale. La sécurité sociale, ils piquent de l'argent dedans pour aller la mettre ailleurs. Mais il suffit de regarder sur Internet, Mediapart ou d'autres journaux qui ne sont pas gouvernés. Comment c'est possible que 80% des chaînes ou des journaux télévisés appartiennent à des riches? Il faut arrêter. Hein. Et la police, elle n'est pas là pour défendre le peuple. Alors quand il y a eu les gilets jaunes, moi j'y étais.
T'as toujours été gilet jaune depuis 2018?
Dès que ça s'est installé, j'ai participé. Je travaillais, j'avais un petit peu plus de sous que maintenant, donc j'ai contribué.
T'es arrivé à la retraite?
Ouais, depuis le mois de mai. Donc,
le coup près est passé pas loin.
Ah ouais, moi j'ai eu du bol. J'ai eu du bol. Mais tu vois, par exemple, ma femme qui a commencé tard parce qu'elle faisait des études, eh bien, elle va travailler jusqu'à... Alors elle, c'est même pas 64, je crois que c'est 67.
Bah, je te rassure, ils vont la virer avant. Hein. C'est juste qu'elle va avoir une retraite de misère.
Ouais, j'ai mon fils qui fait des études supérieures, il est en prépa. Quand il rentre le week-end, il bosse. Il bosse le samedi, il bosse le dimanche. Et il me dit, la sélection, elle est tellement dure, on ne peut pas se permettre d'aller faire la bringue. Il bosse ses cours, mais ça compte pas. Après, c'est une école d'ingénieur, c'est 3 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il a 20 ans, donc il va commencer à 23, 24. À 24 ans, il va commencer. Donc, il va aller bosser jusqu'à quel âge? Pour moi, on n'est pas dans une société juste de l'argent, je suis sûr qu'il y en a. On trouve des milliards pour plein de choses, pour l'armée.
Ah, pour la guerre, il y a toujours des sous.
Voilà. Hein. Et je considère qu'un étudiant qui dépasse le bac, hein, dès qu'il a 18 ans, devrait lui verser un salaire d'étudiant. Pour moi, c'est pas normal de laisser les gens comme ça, pas en France. On n'est pas au Bangladesh. Hein.
Tu parlais 6ème République, Patrick, tu restes sur l'idée de RIC, référendum d'initiative citoyenne.
Ouais. Oui, consulter le peuple. C'est pour ça que je disais, aucun président ne devrait avoir le droit à lui tout seul de décider de vendre une technologie qui nous appartient. On va peut-être me trouver chauvin, mais notre plus grand professeur cardiaque, il est parti aux États-Unis. Quand il est arrivé là-bas, il y a un mec qui lui a dit, voilà les plans de 3 hôpitaux, vous en serez le directeur, vous choisissez celui que vous voulez. Chez nous, on lui a dit, non, c'est bon, hein, vous êtes vieux, maintenant, faut partir. Bon, il avait un certain âge, c'est vrai que lui, il n'avait pas 64 ans. Mais il n'empêche qu'on laisse partir notre matière grise. On nous pique tout et on vend la France. Moi, je suis révolté, je ne sais plus, je perds mes mots, sans déconner. On vend des châteaux à des Chinois, j'ai rien contre les Chinois, hein. J'aime bien leur bouffe d'ailleurs. Il n'empêche qu'ils n'ont pas le droit de démonter le château, ce qui est à l'intérieur. Ils se barrent avec la cheminée parce qu'il l'a acheté. Il considère qu'il peut tout démonter, tout embarquer. C'est notre histoire de France. La voilà, notre histoire. Elle est sur ce drapeau. Voilà, ça représente ce que je veux, moi. Une vraie révolution. Faut tout foutre en l'air. Faut tout foutre en l'air. Parce qu'en fait, les gens qui sont au gouvernement, c'est de la mafia. De la mafia en col blanc. Ils ont beau faire les gens gentils comme ça, par derrière, c'est pour mieux nous entuber continuellement. Ils nous volent. Comment ça se fait qu'un président, parce qu'il a été président, mais il est quoi quand il est assis sur le trône? Il a la même tête que moi. Hein. Le mec, il touche son salaire de président à vie. Les sénateurs, ils touchent leur bol, là, jusqu'à perpète.
Quelqu'un disait l'autre jour, Macron qui est né en 77, il va être à la retraite dans 3 ans, là.
Hein. Ouais, je sais pas. Ce que je sais, c'est que jusqu'à sa mort, il touchera son salaire de président. Et ça me pue au nez, quoi. Il est plus président, il touche plus rien, point barre. Il nous coûte une fortune. Bah alors celui-là, il va nous coûter cher, hein. Parce qu'il est jeune, hein. Il est pas prêt de clamser, hein. Moi, je suis scandalisé quand je vois la division qu'il y a, tous ces gens autour de nous, qui sont plus ou moins solidaires, mais qui sont pas dans le mouvement. Parce que vous pouvez être des millions de grévistes, si vous êtes chez vous à jouer à la PS, hein, ça marchera pas. Eux, ce qu'ils voient, c'est les gens qui sont dans la rue. S'il n'y a pas de monde dans la rue, pour eux, c'est que tout va bien. Par contre, quand les gens sont dehors, dans la rue, ça a un impact. Il faut que les gens descendent et viennent dans la rue. Tous.
Depuis 2018, très fort mouvement gilet jaune. Et puis, j'ai toujours vu des petites taches de jaune le samedi. On en est où, là?
Bah, c'est un symbole, le fait d'avoir un gilet jaune. Mais si vous ne le mettez pas, c'est pas pour autant que vous n'êtes plus dans la révolte qui a emmené à ce mouvement. Il y a quelqu'un qui a dit, faites comme moi, mettez un gilet jaune pour exprimer votre mécontentement. C'était sur l'essence. Mais derrière l'essence, il y a... Regardez, dans les magasins, le peu de fois où je fais les courses, je vois des articles compris 20, 30, 40%. Moi, je compte tout, hein. Ils veulent quoi? Qu'on crève de faim? Qu'est-ce qu'ils veulent?
Mais les gilets jaunes avec lesquels tu as manifesté, tu es toujours en lien avec eux?
Non, j'ai plus de lien parce que c'était un mouvement comme une allumette. Hein. Ça pouvait pas marcher plus longtemps dans le sens où beaucoup de gens, il y avait un mélange des genres. Chacun voulait quelque chose pour lui, revendiquer son petit problème et son malheur personnel. Beaucoup voulaient pas de représentants parce que pour eux, mettre un représentant pour aller parler, c'était ne plus être gilet jaune. Parce que le fait du gilet jaune, c'était un mouvement apolitique.
Horizontal.
Voilà.
Alors ça, c'est un débat que j'ai souvent eu. J'ai dit, non, mais vous faites de la politique. Si vous revendiquez des droits dans la rue, c'est de la politique.
Mais bien sûr.
Mais il y avait une confusion souvent, c'est que politique, quand tu dis politique à plein de gens, ils voient un voleur en costard trois pièces avec une cravate. Ils disent, non, mais je ne vous parle pas des politiques, je vous parle de la,
politique.
Je suis tombé sur des gens tellement dégoûtés qu'ils ne peuvent même plus entendre le mot.
Moi, j'exprime quelque chose, ça me regarde et c'est personnel. Je ne demande pas aux gens d'enfiler un gilet jaune. J'en ai rien à faire. Le gilet jaune, ça a été une belle histoire. Ça aurait pu créer quelque chose de grand. Ça s'est effondré. Et puis, il y a aussi... On a bien montré tout ce qui ne marchait pas avec les gilets jaunes. Les insultes, les menaces de mort sur certaines personnes qui pouvaient se revendiquer. Il fallait une personne qui parle pour tout le monde. Quitte à faire une liste, le cahier n'aurait jamais été assez important pour tout ce que les gens réclamaient. Mais après, dans la vie, il faut aussi faire des choix. Ce qu'on veut tous, c'est quoi? Avoir un toit, bien manger, et puis dans une société moderne comme la France, j'estime qu'on devrait tous pouvoir partir en vacances, et pas comme des gueux là. Le SMIC, mais c'est une misère. Ça doit faire du 1002. Mais qu'est-ce que vous avez avec 1002 quand vous avez payé votre loyer, le crédit de votre bagnole, le gaz, l'électricité maintenant? C'est la misère, moi je sais pas quoi dire de plus. Pour moi, il n'y a rien d'autre qu'une révolution. Fin de la 5e République, une 6e République et le partage des richesses. Point barre. Et si on n'a pas ça, il n'y aura pas d'évolution.
La retraite à 60 ans par les vulves assassines, c'est le grand tube de ces manifs de ce printemps 2023.
15 mars, il fait beau donc il faut espérer que les gens vont venir. Et on se retrouve derrière la voiture de Solidaire avec les haut-parleurs dessus et Franck qui est à la poste et à Sud. Salut Franck.
Bonjour tout le monde.
Comment ça va?
Continue la lutte, hein, voilà. On a des échéances, là, c'est une semaine primordiale, on va dire, dans la lutte.
Comment ça se passe à la poste?
Ça se passe pas bien à la poste, vous savez.
C'est déjà ce que tu me disais la dernière fois que j'ai tendu le micro. Hein.
Ça bloque pas.
Précarisation, exploitation.
Comme dans tous les autres secteurs, malheureusement. Et bon, là, on a des postiers qui sont mobilisés là, autour de moi, quand même. Vous en voyez derrière moi, là, il y en a toute une flopée, quand même. Le taux de grévistes, il n'est pas mirobolant, mais entre 15-20% régulièrement, donc c'est pas rien non plus. Il va falloir faire beaucoup plus là, à partir de cette semaine, encore plus. Donc on a fait un appel solennel, grève générale, et que chacun ramène au moins une personne avec elle, et on sera le double au moins à chaque fois, voire le triple.
Alors, ce que tu nous expliquais la dernière fois, c'est d'ailleurs comme dans toutes les boîtes, comme à la SNCF, comme partout, c'est qu'avec la précarisation des emplois, faire bosser les gens à coups de CDD, un jeune homme ou une jeune femme qui commence dans le métier, qui a un contrat précaire, faire grève, se mettre dans le viseur de la DRH, quoi.
C'est la difficulté qu'on a, parce que l'établissement à la poste où je travaille, il y a environ un tiers du personnel qui est intérimaire ou CDI gel. Ils sont payés au SMIC et en fait, ils sont malléables, corvéables, à merci, voilà, c'est tout. Donc c'est aussi le problème évidemment qu'on a par rapport à la mobilisation, parce que ce genre de population-là, malheureusement, il ne va pas se mobiliser tout le temps, à part s'ils ont vraiment déterminé, hyper déterminé, ils peuvent le faire, il n'y a pas de problème. Venez nous rejoindre, de toute façon, hein, on bouffera des nouilles, tant pis, pendant deux mois mais, ou un mois, mais c'est deux ans de notre vie quand même qui sont volés. C'est deux ans ferme, on prend, et deux ans de vie en moins pour la retraite méritée. Donc c'est hyper important. Là, il va falloir à partir du 15, du 16, du 17, pour reconduire et bloquer. Il y a des actions de blocage qui sont faites par le comité de soutien. Il y a les cheminots, il y a de l'éducation. Là, on a vu aussi, il y a des éboueurs qui sont mis en grève aussi. Donc c'est important, il faut les accompagner, il faut les aider, il faut y aller, il faut bloquer. Voilà, donc on vous donne rendez-vous là, à chaque manif, mais il va falloir le faire tous les jours.
Je crois que c'est ils nous testent là-haut. Sur ces deux ans, parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de ces quelques millions, milliards. De toute façon, le pognon, il est là. Moi, je pense que c'est pour nous tâter, pour voir s'ils ne peuvent pas, dans la foulée, défoncer la Sécu, enfin, défoncer tout ce qui reste public pour privatiser tout ce qui ne l'est pas encore, en fait. J'ai l'impression qu'ils testent les gens. Et que ces deux ans de retraite, là, voilà, ces deux ans de vie, comme tu l'as dit, pour un individu, c'est important. Mais pour eux, en face, là, j'ai l'impression que c'est de l'ordre du test. Genre, tiens, on va les niquer de deux ans. Est-ce qu'ils vont bouger? Et s'ils bougent pas, dans la foulée, on leur défonce la sécu, on leur défonce tout le reste.
Non, c'est même pas un test, en fait, ils le font directement.
Il n'y a pas besoin de ce pognon, c'est-à-dire l'argent, il est
là. Non, il n'y a pas besoin, il y en a. C'est un prétexte fallacieux.
Voilà.
À l'automne dernier, ils ont dit clairement que l'argent qu'ils allaient gagner, ils allaient l'utiliser pour faire d'autres réformes. Sur la santé, etc., etc., sur plein d'autres trucs, et pour évidemment pour réformer aussi plus tard le gros gâteau de la sécu, évidemment, qu'ils veulent aussi manger, parce qu'ils sont emmerdés avec les retraites et que les pensions, ils ne peuvent pas piocher dedans comme ils veulent. Bah, le problème, c'est que là, ils vont pouvoir le faire, sous couvert de cette réforme, et puis ensuite, eh ben, ils vont dérouler le tapis sur la sécu, et puis dérouler le tapis à toutes les grosses firmes, entreprises, holdings privées, sur le sujet, les assurances, les banques, etc. Et en fait, l'État s'en fout complètement, quoi, je pense. Ils sont là-haut, dans leur tour d'ivoire, et puis le pognon, il faut le prendre là où il y en a, et il y en a là, dans nos caisses de retraite, dans notre caisse de sécu, qui est notre bien commun. Voilà.
J'entendais un de tes camarades, là, qui est à Sud Santé Sociaux Solidaire, qui disait, en fait, Macron avait déjà la sécu dans le viseur, enfin, il l'a toujours eu d'ailleurs, hein, ça fait partie de son job, je pense, de la défoncer et de la privatiser. Et le collègue, son analyse, disait, si Macron n'a pas encore défoncé la sécu, c'est que finalement, entre-temps, il y a eu les gilets jaunes. Alors, les gilets jaunes, eux, ils sont pas aussi polis que les syndicats. Je veux dire, quand tu es syndicat, tu demandes au préfet si tu peux passer ici, si tu peux passer là. Gilets jaunes, ils s'emmerdent pas avec ça. Et le camarade là disait, voilà, si Macron n'a pas encore défoncé la sécu, c'est qu'entre temps, ils ont dû. Alors on pense ce qu'on veut des gilets jaunes, hein, mais en attendant, le processus de destruction, d'après le copain, il aurait été arrêté aussi, parce que bah, merde, il fallait gérer ça, quoi, le jaune fluo.
Bah évidemment, c'était un gros mouvement national quand même, qui était spontané. Donc là, ça risque de se durcir de toute façon, parce qu'il y a un appel de l'intersyndicale qui dit attention Macron, parce que là. Ça va vraiment se durcir et ça va exploser. La situation est explosive, on a bien prévenu, donc après, lui, il prend ses responsabilités. Hein. D'ailleurs, on en a des gilets jaunes qui sont derrière nous, là. Et c'est vrai qu'il faudrait bloquer le pays de toute façon, de toute manière. Des ronds-points, tout ce que vous voulez, hein, les entreprises, etc., etc. Et aussi, bah, à un moment donné, peut-être les lieux de pouvoir, parce que c'est là que ça se joue. Si on allait tous camper devant l'Elysée, ça serait bien. On sent les poubelles, hein, parce qu'apparemment, devant l'Elysée, ça ne sent pas très bon. Hein. Même à l'intérieur aussi, d'ailleurs.
Oui, oui. Dis donc, j'ai une question très égoïste à te poser. Moi, j'aime bien recevoir des cartes postales de vacances et du courrier, tu sais, à l'ancienne, quoi.
Ouais.
Ça va continuer, ce truc-là, parce que je commence à avoir à la trouille de dire, mais un jour, on va arrêter de recevoir du quoi. Ils vont tout dématérialiser, ce ne sera plus que les mails. Ou alors ce sera devenu un objet de... Enfin, c'est déjà devenu un objet de luxe. Le timbre sur la carte postale, ça coûte vachement cher, quoi. Ça va continuer quand même, ça, ce truc à l'ancienne?
Ah oui, bah la suppression du timbre rouge. Donc effectivement, depuis le 1er janvier, la stratégie de notre grand patron, Monsieur Val, à la Poste, c'est de supprimer le timbre rouge physique et de le remplacer par un email. Pour 1,49€, tu envoies un email qui est imprimé après dans les plateformes industrielles courrier. Alors, faut juste savoir ces stratégies foireuses.
Mais c'est horrible. Imagine, je sais pas, t'as une lettre d'amour à envoyer, tu vas pas envoyer un email d'amour. Enfin, c'est affreux, quoi.
Les gens n'écrivent plus sur le papier, c'est dommage. Il faut écrire.
Si, il y a encore des attardés dans mon genre qui font ça.
Moi aussi, bien sûr. Moi aussi, j'aime bien écrire de ma plus belle plume. C'est important, parce que c'est pour la culture aussi, à un moment donné. Parce qu'on voit... l'étendue des dégâts que ça fait dans l'éducation, etc., les écrans. Bon, on s'envoie des textos, on s'envoie des emails, on s'envoie des choses que par numérique, que par clavier. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe. On ne fait pas des phrases, on ne fait pas... Voilà.
Non, mais donc, la carte postale ou la lettre d'amour en papier, non, mais on va continuer à s'en envoyer encore?
Ah, j'espère, ça serait bien.
Tu dis, là, ils veulent en finir avec ça?
Ouais, le courrier, ça n'intéresse pas nos hauts dirigeants de la Poste. Le courrier, ça ne rapporte pas assez pour eux. Donc c'est pour ça qu'ils rachètent dans le monde entier des boîtes et développer de la banque assurance. C'est tout ce qu'ils font, ça fait en ce moment. Et toutes les entreprises sont braquées sur ce truc-là en fait. La Poste c'est juste un levier pour Monsieur Val pour se faire connaître, se faire du fric. Puisque avant c'était un service public quand même. Enfin là ça l'est toujours, mais on va dire de moins en moins. Le facteur il passera pas tous les jours chez tout le monde quoi. Avec cette nouvelle gamme courrier, c'est le J+3, c'est plus J+5 qui est mis en avant. J+3, c'est votre courrier va être acheminé en 3 jours, puis en 1 jour. Ça, c'est quasiment fini. Il n'y a plus que la e-timbre rouge, le fameux email qu'on peut envoyer. Bon, voilà. Ça incite pas les gens à s'écrire, hein, évidemment. Surtout dans cette société actuelle qui va de plus en plus vite. Voilà.
Bonne manif malgré tout, Franck. À bientôt.
À bientôt.
Les machines s'envoient en l'air dans les vitrines. Des paroles fort à ta nous mettre minage au sol. Et qu'elle repasse des diplômes, qu'elle nous fasse des tartes. Ou qu'elle plombe le soleil. Si elles ont un peu la flair, on s'arrêtera pas là. On veut entendre les cris de joie dans les parcs, dans les deux. Des cocas libérés, les cheveux gris au vent. Courant à droite, calme le vent. Qui fait chanter et faire les rondes et réfléchir au nouveau monde. La retraite
dans le cœur de la manif, pas beaucoup de panneaux, mais alors il y a celui-ci, il est tout petit, mais il est vachement bien. Bonjour Flo.
Salut, ça va?
Qu'est-ce que c'est que ce dessin? Alors c'est marqué leur retraite et celle qu'ils nous offrent, placardé sur ce petit panneau de carton que tu brandis dans cette manif. C'est quoi ce dessin?
C'est une vraie affiche de la CGT de 1910, où on voit les bourgeois qui sont en train de dîner, ils sont gros, ils sont contents, ils sont satisfaits. Ils laissent un os au seul travailleur retraité qui a réussi à atteindre l'âge de la retraite, à l'époque 65 ans.
Alors, le banquet des riches se situe à un étage et pour monter à l'étage, en fait, il y a un escalier et sur chaque marche, il y a marqué 61, 62, 63, 65. Voilà, et celui à qui on jette un os, il a réussi à se hisser jusqu'à la marche 65 ans.
C'est complètement ce que veut dire l'affiche, c'est qu'à cette époque-là, les ouvriers étaient contre l'idée de la retraite parce qu'ils savaient qu'ils n'auraient pas l'espérance de vie suffisante pour en profiter. Donc ils avaient cette impression qu'on allait les spolier. Aujourd'hui, on a un petit peu la même chose avec cette retraite à 64 ans, puisqu'apparemment, un tiers des travailleurs pauvres n'atteindront pas cet âge-là. Donc ça s'appellera aussi la retraite des morts. On se fout de notre gueule. C'est ça que je voulais dire avec l'affiche.
Ça me rappelle ce que me disait mon père. Mon père était gamin dans les années 50, dans un milieu ouvrier. Et il me disait, quand un ancien arrivait à la retraite, donc à 65 ans, ça voulait dire qu'il avait encore 2-3 ans devant lui pour gratter son carré de salade.
Alors que là, on est tout simplement en train de pressuriser les gens, déjà dans des conditions de travail dégueulasses, avec aucun espoir de repos derrière, à part celui définitif. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles tout le monde est là aujourd'hui. C'est nous, on travaille, on est fiers de travailler. On n'a aucun problème avec l'idée de poursuivre notre boulot avec toute l'énergie qu'on pourra. Mais si c'est pour avoir cette idée que de toute façon, on va finir dans la tombe, quel sens? L'homme, il n'est quand même pas né que pour ça.
J'ai l'impression que pour le gouvernement et le patronat qui nous dirige là, que c'est presque un test, qu'ils en ont rien à foutre en fait de ces 2 ans supplémentaires. C'est juste pour voir si les gens vont broncher, si on leur défonce la retraite, parce que derrière, il y a la sécu, il y a encore tout un tas de choses publiques, de moins en moins, hein, à marchandiser pour ces gens-là. J'ai l'impression en fait que là-haut, ils testent le peuple pour voir, bon allez, on va les entuber un peu plus là pour voir s'ils bougent ou pas. Et s'ils bougent pas, on leur défoncera la sécu et tout le reste quoi.
Moi je suis assez d'accord avec toi et une chose qui me rassure un peu aujourd'hui, c'est de voir mes potes gaziers notamment qui étaient en AG apparemment à 4h du matin hier et qui se bougent. Et quand on voit l'énergie que les gens mettent dans ce mouvement, on continue, on se bat et je pense qu'il faut justement rien lâcher parce qu'effectivement ce qui nous attend c'est la cata.
À côté du dessin, il y en a un autre qui est épouvantable. Voilà. Donc on voit un travailleur de toute évidence pas en bonne forme du tout avec un toubib derrière qui l'ausculte. Et alors le travailleur dit à son toubib:
travailler toute sa vie pour une retraite aussi minable.
Et le gros toubib avec le stéthoscope dans le dos du type lui dit: rassurez-vous, c'est bientôt fini.
Voilà. Malheureusement, c'est peut-être ce qui attend ceux qui réussiront enfin à s'arrêter de travailler pour profiter un petit peu du temps qui leur reste. Bah, le temps qui leur reste, il va être bouffé par les maladies, les problèmes de santé qui seront dus à leurs conditions de travail.
Est-ce qu'il y a un recto à ton panneau?
Oui.
Ah,
alors moi, là,
ah,
j'ai
un
pompé,
classique.
Hein.
Ouais,
c'est
ouais.
Pas de moi, mais je l'aime bien. Si tu mets 64, on te met 68. J'ai choisi de mettre dessus une petite caricature de notre président pas bien aimé, détesté, sur lequel un pavé est jeté. Voilà. Moi, ça me défoule un petit peu d'imaginer de la violence en ce moment parce que c'est tellement violent ce qu'on nous fait subir et depuis des années.
Bon, mais franchement, tu travailles à l'éducation nationale, t'es maîtresse des écoles. On dit encore comme ça, non?
Moi, je le dis parce que c'est le plus simple. Ouais. On dit professeur des écoles.
Franchement, ça va, t'es pas au fond d'une mine à pousser des wagonnets, quoi. Les enfants, ils sont sages, ils écoutent la maîtresse. Tu vas pas me dire que c'est fatigant?
Alors, apparemment, il y a deux semaines, on a dû faire intervenir la police. Parce qu'on avait une mère cramponnée au grillage qui fumait des mégots et invectivait les mômes et les enseignants. Ce qui se produisait assez quotidiennement ces derniers mois. Voilà, pour les conditions de travail, c'est un extrait. J'en aurais plein, mais là, on va pas parler pendant une demi-heure. Alors moi, je l'aime mon boulot, je suis fière de le faire, mais j'aimerais bien qu'on nous laisse un petit peu le faire dans des conditions honorables, respectables, et qu'on nous donne plus de moyens de personnel.
Comment ils vont les gosses d'ailleurs? Enfin, autour de moi, moi je vois des mômes qui vont pas bien. J'ai entendu à France Inter d'ailleurs l'autre fois que l'explosion de consommation de psychotropes chez les enfants qu'on leur administre, hein, calmants, anxiolytiques, etc., a explosé. Et bon, je me dis naïvement, une société dont les enfants vont pas bien, c'est une société qui va pas bien. Comment ils vont tes élèves?
Bah, ils vont pas bien. Ils vont pas bien. Ils sont lobotomisés par les écrans déjà. Et on a vraiment des problèmes à essayer d'éduquer les familles sur le fait juste de revenir aux fondamentaux, hein, parler-leur, jouer avec eux. Et puis bon, c'est quand même des gamins qui ont été traumatisés par une crise sanitaire il y a 2 ans. On a des mômes qui sont quasiment nés avec ça, avec cette histoire de masque. Il y en a qui ne sont pas allés à l'école. Est-ce qu'on a eu de l'aide pour parler avec eux, pour travailler là-dessus, pour avancer, pour guérir? Rien. On nous avait promis qu'il se passerait quelque chose. Il ne s'est rien passé de tout ça. Au contraire, non, les enfants ne vont pas bien. Non, les enseignants ne vont pas bien. Non, leurs parents ne vont pas bien. Et effectivement, tout ça, c'est assez dur à porter au quotidien.
Tu dois faire ça jusqu'à 64, 72, 73?
Non, déjà je me vois pas, et puis surtout pas en voyant les conditions de travail se détériorer comme elles le font. Comment est-ce qu'elles seront mes conditions de travail quand j'aurai 64 ans? Quel môme j'aurai devant moi aussi? Donc non.
Oh, j'avais pas remarqué le manche de ta pancarte, c'est une règle comme on avait à l'école, un grand maître jaune.
Oui, c'est un vestige du boulot. Alors, je ne l'ai pas volé, cette règle, je l'ai cassée.
Ah ouais, non, mais là, c'est Madeleine de Proust, là. C'est...
Oui,
wow.
Il y a souvent des manifestants qui me disent: ah, ma maîtresse, elle avait la même.
Oui.
Bon, bah, c'est un peu ma blouse blanche à moi, quoi. Là, je suis là en tant qu'enseignante. Ce n'est pas marqué sur ma pancarte aujourd'hui, mais ça peut se remarquer quand même.
Ça fonctionne vraiment très bien.
Mmh, bah, j'aime bien.
Je me suis retrouvée en CE2 pendant au moins une fraction de seconde.
Un peu d'humour dans une manif, il y en a toujours. C'est important de se marrer aussi.
On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite.
Bonjour Victorien.
Bonjour.
Est-ce que tu veux bien lire le panneau de Lionel, là, s'il te plaît?
C'est tellement la merde qu'on sait plus quoi écrire.
Bonjour Lionel.
Bonjour.
Dis donc, c'est pas original, je l'ai vu traîner sur Internet, hein, celle-là. Là,
là on n'est pas là pour faire preuve d'originalité. On est là pour gueuler et puis pour se faire entendre par ce gouvernement qui reste sourd.
Moi, je pense qu'ils entendent très bien, hein, et qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Hein.
Ah oui, mais complètement. Et puis le dessin est là, tristement, mais du coup, c'est pas grave. Ils pensent savoir ce qu'ils font. Ben, nous, on sait très bien ce qu'on croit. On croit éperdument à une justice sociale.
Toi, tu travailles dans l'éducation spécialisée?
Oui, c'est ça.
Parce que tu es déjà intervenu dans cette émission. Hein, oui. Tu es l'un de ces dangereux bolcheviks qui font tous les mouvements sociaux dans cette ville.
C'est ça, exactement, ouais. Très, très dangereux, ouais.
Ça devait être en 2019. C'était déjà pas la fête au travail? Ça s'est arrangé depuis?
Bah non, pas du tout. Donc, comme on le craignait, ce que je t'avais dit, c'était la loi de l'école inclusive. qui a carrément cassé le métier d'enseignant spécialisé. Et donc le résultat est tel que du coup il y a un épuisement au travail de beaucoup de collègues dans le spécialisé et où il y a une perte de sens et les élèves sont malmenés par cette institution et de plus en plus.
D'ailleurs France Inter l'a dit l'autre jour, l'explosion de consommation de psychotropes pour enfants a explosé. Les élèves auxquels tu as affaire, toi, n'allaient déjà peut-être pas forcément très bien avant. Comment ils vont les mômes là aujourd'hui?
Les mômes ils vont comment? Alors déjà effectivement avec cette consommation de psychotropes et puis des prescriptions comme ça en veux-tu en voilà, effectivement il y a une part grandissante très inquiétante. Et après les élèves comment ils vont? Les élèves ils vont qui sont dans un système où qui ne leur correspond pas au niveau des apprentissages, on doit leur enseigner des choses qui ne correspondent pas à leurs réels besoins, avec des classes de plus en plus chargées qui ne leur permettent pas de pallier aux difficultés qu'ils ont de par le fait qu'ils soient sujets à des troubles du comportement.
Est-ce que tu te vois faire ce métier jusqu'à la mort? C'est ça le projet en fait, je pense.
Au niveau de la forme, mourir sur scène, ok, ça je l'aurais laissé pour d'autres. Mais du coup, non, je ne me vois pas faire ça. Et puis non. Pour les élèves, il faut quelqu'un de costaud en face. Et donc du coup, non, à plus de 60 ans, je ne pense pas que j'aurai la force physique et aussi morale de continuer ce métier-là.
T'en as combien de jours de grève là?
Je les ai toutes faites.
Ça veut dire que tu pars pas en vacances à Pâques, non? C'est ça?
Non. Puis même sans parler de grève, partir en vacances, c'est très coûteux et que du coup, on n'a pas les thunes, quoi.
Combien tu gagnes par mois?
Net, sans les primes. Donc moi, ça fait 20 ans que je suis à l'éducation nationale et le salaire, c'est environ 2200 euros.
Si tu as fait toutes les grèves, tu dois en être au moins à 5 ou 6. Ça fait une feuille de paye à combien, ça?
En fait, on ne peut pas le savoir véritablement comme ça parce qu'il n'y a pas de règle. Quand ils ôtent les journées de grève, ils peuvent les enlever toutes d'un coup au mois de juin, ce qui est souvent le cas. Et sinon, ils les enlèvent une journée de grève par-ci, par-là. Donc, je ne peux pas te dire véritablement combien ça fait. En tout cas, une journée de grève me coûte une centaine d'euros.
Juste pour revenir sur le leitmotiv que les jours de grève, les profs, ils sont payés double.
Ah oui, non, absolument pas. Et puis, on n'est pas payé les jours de grève, donc on perd des thunes. Après, moi, ce que j'entends pas, et je suis très fâché vis-à-vis des collègues, c'est que du coup, le truc, on peut pas faire grève parce qu'on n'a pas de thunes. En attendant, pour moi, c'est pas un argument recevable.
Ah oui, c'est bien connu, il y a que les riches qui font grève. D'ailleurs, voilà. C'est pour ça qu'ils font grève, c'est parce qu'ils sont riches.
Non, et puis on a des exemples. Quand on voit les femmes de ménage des hôtels Accor qui ont fait quand même la grève pendant un an, ces femmes-là jouaient leur vie dans la grève. Et là, du coup, de la part d'enseignants, je peux pas entendre ça. On bouffe des patates, mais en attendant, on défend l'école de la République.
Derrière, il y a un autre panneau, dis donc, il y a un verso. Bonjour madame, vous voulez bien lire le panneau?
Olivier Véran, c'est pas la grève qui cause une catastrophe agricole, écologique, sanitaire, c'est ton Mac, sa politique et votre connerie.
On peut rappeler qui est ce Olivier Véran?
Un ancien, a priori militant. On voit une vidéo qui tourne là où il était plus jeune et donc du coup il était en grève. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est juste un pion du gouvernement, soi-disant porte-parole, mais voilà. Donc du coup, pour raconter des absurdités, et notamment sur le panneau que je porte aujourd'hui, c'est ça, c'est des absurdités qu'on a pu entendre, comme quoi en faisant grève, on allait être responsable de problèmes climatiques, du manque d'eau, du papillomavirus aussi. Donc on pensait que c'était un sketch, mais non, en fait, il a cru que ses paroles étaient sensées, c'est ça qui est grave. Donc je pense qu'il y a besoin de soins psy très urgents pour ce monsieur Véran.
Donc là, en défilant dans la rue, à pied, avec des panneaux, tu contribues au réchauffement climatique, c'est ça?
Il faut croire, selon le spécialiste Véran.
Je sais pas, il a peut-être pas eu droit à l'école de la République, lui.
Oui, c'est ça, parce qu'un élève de CE1 pourrait le comprendre. Donc du coup, peut-être qu'il a sauté quelques classes, quoi. Mais c'est lamentable de dire ça. Et puis surtout, moi, ce qui me fout en colère, on en rit effectivement, mais c'est que ça reste impuni comme propos. On peut sortir des grosses conneries comme ça et ne pas être du tout mis sur le banc et puis être sanctionné pour des propos complètement incohérents.
Véran au coin avec un bonnet d'âne, c'est à l'ancienne, mais finalement ça pourrait faire ses preuves comme méthode.
Ouais, alors effectivement au coin, mais surtout démission. Véran démission, Attal démission, tous ceux qui sortent de manière quotidienne que des conneries et des purs mensonges. Et moi je me demande comment ces gens-là sont capables de se regarder dans une glace le matin et d'avancer dans leur journée en étant des menteurs pareils et puis en prenant encore une fois une réforme qui est toute sauf sociale et qu'ils essaient de nous la faire avaler. Mais là, on le voit encore, on est nombreux ce matin dans la rue. Et donc, du coup, ça, c'est plutôt rassurant. Même s'ils font passer leur truc, demain, on sera encore là. Et j'espère qu'il y aura du monde. Donc voilà, il faut aller aux assemblées générales, interprofessionnelles. Il faut participer aux actions et c'est important, on a le pouvoir. Et notamment par rapport aux collègues, il y a 900 000 profs en France, que si les 900 000 profs se mobilisaient, on aurait gain de cause.
C'est vrai qu'il y a deux moments dans l'année où les enseignants, vous avez particulièrement du poids, c'est à la rentrée scolaire. Et puis pour les passages de classe et les corrections de bac et autres. Hein. Alors je sais, hein, c'est terrible de, moralement de demander à un prof de faire de la rétention de copies, mais vous avez un pouvoir potentiel de blocage vous aussi, même si ce n'est pas la, la raffinerie ou les cheminots, les copies du bac, ça pèse quand même.
Il y a ça, il y a pour le bac, et là d'ailleurs ce matin, ce qui traîne dans les médias mainstream, c'est comme quoi on serait des gros vilains si on empêchait les épreuves du bac qui ont lieu la semaine prochaine, les épreuves de spécialité. Si on les empêchait d'avoir lieu. Et là, pour le coup, on a un réel pouvoir parce que... Puis là, ils interviewent plein de lycéens qui disent qu'on est des gros méchants si on bloque les épreuves du bac. Mais déjà, ces épreuves du bac sont injustes. Depuis quand on passe un bac au mois de mars, l'année scolaire est loin d'être finie, donc les gamins ne sont pas préparés. Donc il y a ça, il y a effectivement le jour de la rentrée où on a un réel pouvoir. Et puis les collègues du premier degré, les collègues d'école maternelle et d'école primaire, si ces personnes-là arrêtaient de bosser, on a bien vu pendant les confinements que du coup, c'était essentiel de maintenir les écoles ouvertes pour que les gens puissent continuer à travailler.
On va se revoir alors
Oui, on va se revoir.
Et puis bon, les patates, ça se cuisine de plein de façons différentes. Hein.
Ouais, c'est super bon.
Bonne journée, bonne manif.
Ouais, même. Toi aussi, bonne journée, salut.
Bonjour Nadine.
Bonjour.
Est-ce que tu veux bien lire la pancarte du copain là, s'il te plaît ?
Retraité recherche un emploi fictif pour arrondir ses fins de mois, de préférence bien rémunéré.
Bonjour Yannick.
En fait, la première pancarte samedi dernier, c'était celle-ci là. Voilà.
C'est marqué, j'ai pas de slogan sur ma pancarte, c'est juste pour se repérer avec les copains et quelqu'un qui est dans l'inclusif à rajouter copine.
En fait, c'était pour mettre un petit peu d'humour.
Ouais. Et non, ça aussi... dit retraité recherche ça... un emploi fictif ça... pour arrondir ses fins de mois, ça dit quelque chose quand même.
Moi ça me parle parce que j'ai une toute petite retraite.
Combien tu touches ?
J'ai 850 balles de retraite. J'ai une activité qui a duré 45 ans. J'ai bossé jusqu'à 63 ans, j'ai 850 balles de retraite.
Qu'est-ce que tu faisais comme boulot ?
J'étais ébéniste, j'ai eu des enfants, je me suis aussi occupé des enfants. J'ai eu quelques bas dans ma vie professionnelle. Ça n'empêche que c'est quand même 45 ans de cotisation et 850 euros. Non, ce que je veux dire, c'est que là, il y a une masse de gens. On pourrait faire autre chose, quoi. Toujours en restant dans la non-violence, mais faire autre chose, parce que là, c'est trop gentil. Là, on est rendu à je sais pas combien de manifs, là. Et moi, je viens à chaque fois, mais à un moment donné, tu dis, merde, avec toute cette énergie qui est là, pourquoi on ferait pas autre chose, quoi. Il y a d'autres choses à faire.
Il fait beau en ce jeudi 16 mars et on retombe sur Willy, cheminot chez Sudrail. Salut Willy.
Salut JB, ça va ?
Les traits tirés.
Les traits tirés et puis un petit peu malade là, avec la journée d'hier, chaud-froid, voilà quoi. Mais bon, c'est comme ça, on résiste quand même.
Alors ici c'est important d'être là, là à midi, il y a rendez-vous ici, parce qu'à Paris il se passe des trucs. Et ici, dans notre ville de province aussi.
Il se passe à Paris que ça bouge plus qu'ailleurs, c'est normal, hein. Ouais. C'est la
Alors,
capitale.
Je parle du gouvernement là, aujourd'hui ouais. C'est une date et un moment clé.
Soit ils valident ou soit ils valident pas, est-ce qu'ils vont passer en force avec le 49-3, on ne sait pas. Ce matin on entendait à la radio qu'il pourrait y avoir dissolution du gouvernement. Puis là, on est ici, on a demandé à tout le monde d'emmener des casseroles, de quoi faire du bruit, pour qu'à 12h49 et 3 secondes, tout le monde fasse du bruit, quoi, voilà.
49-3.
Voilà, 49-3, tout à fait.
Et ce matin, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors ce matin, on a fait une bonne petite action, on avait peur, c'est comme d'habitude, on se prévoit toujours deux scénarios, est-ce qu'il va y avoir du monde ou pas ? Bon, t'es quand même une petite quarantaine, quoi, une quarantaine, ouais. On mettait au carrefour de Vernin. On s'étonne bien que là-bas, ça passe en voiture, ça passe en tram, ça passe en bus. Et puis, le peu qu'on mettait, on a réussi à bloquer pas mal pendant 2 heures. Alors, la police est venue, mais ça va. Il y a eu une petite négociation, on bloquait 5 minutes, on est lâché 5 minutes, et puis voilà, quoi. Mais pendant 2 bonnes heures, ça a été salvateur. Au moins, voilà, on fait quelque chose, on essaye de bloquer. On n'est pas là à s'enterrer sur un rassemblement, puis à rien faire. Voilà. Donc, c'était plutôt bien, et en même temps... Il y avait d'autres copains qui étaient à un rond-point, alors je ne pouvais plus te dire où c'était. Et pareil, ça a plutôt pas mal marché. Et puis tout ça, tractage et tout, on a eu le temps de passer des tracts aux gens et tout pour ce qui allait se faire, pour la continuité, quoi. Voilà.
Bon alors je serais un journaliste de médias dominants, je te dirais ouais, mais vous empêchez des braves travailleurs de se rendre à leur boulot et de gagner leur croûte. Alors, je te ressors le 10, donc des preneurs d'otages, hein, vilain preneur d'otages, cheminot.
Enfin, les preneurs d'otages, c'est fait, pas vous, ça.
Oui, voilà, c'est
moi,
ça.
J'ai un copain de Sud-Rail qui a vécu le Bataclan, lui, il pourra parler de prise d'otages. Hein, faut pas mélanger toutes les choses. Après, voilà, forcément, quand on parle de blocage, bah, ça peut embêter certaines personnes, voilà.
Bon, je te fais de l'entraînement aux médias dominants.
Mais bien sûr, merci mon gilet. Merci mon gilet, au cas où je tomberai dessus.
Bon, eh ben, on va attendre midi 49 voilà. Et 3 secondes.
Voilà.
On a du bol, il fait beau.
Oui, c'est clair, il fait beau. Voilà. Il fait encore beau, chaud, et puis voilà, au moins c'est plaisant. Voilà.
Bon, remets-toi bien, un bon grog en rentrant à la maison. Hein.
Merci JB, je te remercie.
Le jeudi 16 mars, il n'est que midi et quart, mais on attend 12h49 minutes et 3 secondes et on retrouve Lionel. Salut Lionel.
Salut.
Rappelle-nous pourquoi 49 minutes et 3 secondes.
Parce que du coup, suite à cette matinée, on peut s'attendre à un 49-3 cet après-midi aux alentours de 15h, donc avant le vote donc des députés. Donc ce matin, j'ai pris mon courage, ou je sais pas, ma folie à deux mains, et j'ai regardé nos charmants sénateurs favorisés en train de discuter autour de cette loi qui, bien sûr, ne les concerne pas parce qu'ils vont conserver, eux, leur régime spécifique des retraites. Donc, du coup, j'ai regardé ça et...
Sur la chaîne parlementaire, non ?
Sur la chaîne parlementaire, ouais. Donc, du coup, ce matin, ils votaient. Et donc, du coup, contrairement à ce qui était attendu et même annoncé par les sénateurs qui avaient pris position et avaient dit quel vote ils allaient effectuer, ce matin, certains ont changé de camp. Et donc, ceux qui devaient voter oui... finalement, on penchait vers le non. Donc là, ce matin, le vote est passé, mais à très, très, très peu. Malgré tout, on va rester positif ou optimiste et attendre cet après-midi parce que ça passe vraiment de très peu. Donc la surprise peut avoir lieu au niveau des députés. Sauf que du coup, il ne faut pas se leurrer. Je pense que notre charmante première ministre va sortir un petit 49-3 comme elle sait si bien faire.
Mais bon, grâce au réchauffement climatique, il fait beau.
Il fait très beau aujourd'hui. Donc voilà, donc, même si la journée est plutôt lugubre, triste et à souhait, on est là pour faire du bruit. J'espère que partout en France, à midi, ça va taper sur des casseroles, sur des tambourins, dans des flûtes à bec sorties d'un vieux tiroir du grenier. Donc voilà, mais faire du bordel à midi, 49 minutes et 3 secondes, pour faire prendre conscience à tous ces dirigeants que nous sommes contre et largement, nous sommes nombreux à être contre cette réforme qui pue.
Il est 16h et quelques et il y a eu un défilé de camions klaxonnants avec marqué Enedis dessus. Alors bon, vu que tout ça a été privatisé, morcelé, avant ça s'appelait EDF-GDF, c'était simple, ça appartenait aux citoyens. Maintenant ils ont tous saucissonné dans tous les bouts, on ne sait plus où on en est. Et on se retrouve ici avec Mathias. Bonjour Mathias.
Oui, bonjour.
Gilet rouge avec marqué CGT, mine, énergie, service public de l'énergie. Enedis, c'est encore le service public ?
Oui, c'est encore le service public.
Parce que je suis tout paumé, hein. Entre les privés qui viennent te vendre de l'électricité au porte-à-porte comme on vendrait des tapis, ouais. On est perdu.
Alors Enedis, c'est le distributeur, donc on s'occupe du réseau électrique. On ne vend pas de contrat électrique. Voilà, c'est à la charge EDF, Direct Energy et autres fournisseurs. Aujourd'hui, les véhicules, vous avez pu voir, estampillés Enedis, GRDF, sont aussi marqués avec d'autres mentions.
Oui, alors j'ai vu un 64 barré. Oui. Alors ça ne veut pas dire je n'aime pas le Pays Basque.
Non, ce n'est pas ça, évidemment.
Et il y avait marqué retraite et en colère.
Oui, on est très très grandement en colère contre l'annonce de la mise en place d'un 49-3. Aujourd'hui, on veut vraiment faire entendre notre voix et je pense que les énergéticiens vont le faire entendre de la manière la plus forte qui soit. On a déjà mené des premières actions, on a mis en sobriété des radars. Et
Oh, c'est joli, mis en sobriété.
Oui, c'est...
Ça veut dire qu'ils sont plus électriquement alimentés ou
J'utilise les mêmes mots que le gouvernement, qui est aussi radical voilà, avec cette réforme. Donc réforme radicale, résultat radical. On peut s'attendre aussi à des coupures ciblées.
Vous avez entendu Véran, non? Il paraît qu'en circulant comme ça, vous vous accélérez le réchauffement climatique, vous n'avez pas honte.
Aujourd'hui, on est bien conscient que voilà, les véhicules thermiques polluent, mais c'est le gouvernement qui nous met dans la rue, c'est lui qui est responsable.
Il y a eu des actions concernant les énergéticiens il n'y a pas longtemps, et la radio d'État France Inter, est montée au créneau en disant oh, « Vous rendez compte, vous avez aussi coupé le jus à un hôpital ». Vous êtes vraiment des vilains preneurs d'otages. Hein.
Oui.
Voilà, imaginons que je m'appelle Léo Salami, je dis « Mais vous êtes violent !» Est-ce que vous cautionnez cette violence, Mathias?
À réforme radicale, mesure radicale. Aujourd'hui, les énergéticiens ne vont plus regarder avec la même bienveillance. Je souhaite au gouvernement de plein de courage.
Est-ce que ça veut dire d'autres mises en sobriété? Bon, ici, on parle à Tours, petite ville de province, en région centre. On peut s'attendre à quoi?
Je peux pas dire précisément. Ça sera la volonté des salariés. Aujourd'hui, la CGT Énergie Touraine répond aux attentes des salariés et on les accompagne dans toutes ces actions.
Vous défilez avec les outils de travail quand même, hein. Ça peut vous être reproché, ça. Ce faisant, vous prenez des risques pour vous, pour vos personnes, vos parcours, je n'ose pas dire carrière, oui. Dans la boîte.
Évidemment que c'est un risque, les salariés en ont conscience. Bah, si les salariés sont prêts à ça, c'est qu'ils n'ont plus rien à perdre.
Je reviens à ce truc-là, je faisais une blague là-dessus en entrée de jeu, mais tu sais, il y a des jeunes qui viennent me vendre du courant au porte-à-porte chez moi. Ouais. Drink, bonjour, on vient vous vendre du courant, du gaz. Moi, je suis complètement paumé dans tous les fournisseurs. Et j'explique à ces jeunes gens qui tombent des nues, en disant, vous savez, avant, ça s'appelait EDF-GDF. Ça a été nationalisé en 1945, je pense, un truc comme ça, ouais. À la Libération. Et ça appartenait avant aux gens, aux contribuables. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui vous fait sortir de vos gonds, là, ce morcelage de ce qu'était un bien public en plein d'entités plus ou moins privées?
Mais bien évidemment, on avait un système qui fonctionnait tout à fait convenablement et qui permettait d'avoir un total contrôle du tarif de l'énergie. Aujourd'hui, je ne vais pas aller en profondeur dans l'histoire, mais la mise en place de l'AREN et la mise à mal du service public de la distribution d'électricité.
Je crois qu'il y a beaucoup de gens, alors bon, j'ai une copine par exemple, elle est documentaliste dans un collège. Elle dit, moi je veux bien me mettre en grève, mais je vais empêcher les gamins de lire des BD. J'ai une copine qui travaille dans un hôpital où il y a des enfants. Elle dit, bon ben voilà, enfin je veux dire, ça va faire une belle jambe, machin. Mais vous, enfin, cheminots, gaziers, électriciens, etc. Je crois que les gens, enfin beaucoup de gens qui aimeraient faire grève attendent que vous soyez un peu moteur de ce truc-là. Vous avez conscience de ce rôle-là?
Oui, on a tout à fait conscience de ce rôle-là. Et on a bien conscience que chacun peut faire grève ou manifester son soutien de la manière dont il le souhaite. Je rappelle en même temps qu'il y a une caisse de solidarité qui existe au niveau national.
C'est comment on va sur Internet?
Exactement, vous pouvez aller sur Internet.
On tape quoi?
CGT.fr, caissesolidarité.fr. C'est le gouvernement aujourd'hui qui va décider quand est-ce qu'on arrête. Voilà.
Bon, bah, si l'électricité ou le gaz se coupe chez moi, je lèverai le poing dans ma cuisine.
On a bien conscience, on ne veut pas mettre en difficulté les Français, parce que ce sont eux aussi qui manifestent leur mécontentement. On ne veut pas se mettre en opposition avec eux. On veut vraiment réaliser des actions ciblées et faire entendre à nos parlementaires et à notre gouvernement que ça suffit.
J'ai entendu aussi que dans la région, là, il y a un site de stockage de gaz qui est en grève.
Oui, oui, c'est des salariés du site Storengy à Ciré-la-Ronde. Ça fait plus d'une semaine qu'ils sont en grève et ils sont mobilisés et déterminés. Le risque d'action sur ce site, c'est la privation de gaz pour minimum 3 mois.
Quand on met l'installation à l'arrêt, en fait, pour la redémarrer, il faut au moins 3 mois.
C'est bien ça, ouais. Ouais, il faut au moins 3 mois pour redémarrer une installation comme celle-ci lorsqu'on passe sous un seuil de pression.
Vous étonnez pas peut-être si le gaz n'arrive pas dans vos brûleurs à un moment?
Bon, par chance, on arrive à la sortie de l'hiver, mais voilà, c'est une éventualité. Le gouvernement a bien conscience des risques.
Bon courage à vous, Mathias.
Merci. Merci. Merci à vous et puis bon courage aussi à vous aussi.
Et voilà les amis, c'est ici que prend fin cette spéciale Radio Manif de ce printemps 2023 qui, réchauffement climatique mis à part, pourrait bien être chaud entre lutte contre la déforme des retraites et mortifère méga-bassine. Reportage à retrouver sur notre site Polymix et lavoixoff.com avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.